Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast, ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Marion Pézard, hôte du podcast Healthy Living et naturopathe en devenir. Après ses études en marketing et communication, Marion a travaillé quelques années au sein des grands palaces parisiens. Lorsque sa collègue lui a recommandé de consulter une naturopathe, Marion ne pensait pas que sa vie changerait autant. Découvrir la naturopathie lui a ouvert les portes de l'écologie, du bien-être et des médecines alternatives. Quelques temps plus tard, Marion décidait de se reconvertir et rejoignait le Sénato, une école réputée de naturopathie. En parallèle, Marion a décidé de se lancer dans l'aventure du podcast en créant Healthy Living, le podcast qui décrypte les tendances bien-être de notre époque et met en lumière les personnes qui font le bien. Dans cet épisode, Marion nous parle d'elle, mais surtout de son dada, les cycles féminins, que ce soit de la puberté à la ménopause. Elle nous rappelle que les règles ne devraient jamais être une souffrance perpétuelle et que, si c'est le cas, il est nécessaire de consulter, des solutions existent. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute à tous. Bonjour Marion.
Bonjour Jeanne.
Comment vas-tu?
Ça va super bien, et toi?
Très bien. Merci beaucoup de m'accorder ton temps en cette période confinée.
Avec plaisir, merci de me recevoir.
Bientôt la fin de cette étrange période.
On espère.
Alors, toi, tu es l'hôte de Healthy Living, qui est un podcast consacré au bien-être. On va en reparler dans un second temps. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur ton parcours. Ouais. Et puisque tu as un parcours assez atypique, tu as changé de voie professionnelle en fait, en cours de chemin. Donc j'aimerais d'abord dans un premier temps qu'on revienne sur ton parcours, sur la naturopathie, qui est ta passion désormais et la vie professionnelle vers laquelle tu te diriges. Et ensuite on reviendra sur ton podcast bien évidemment, le pourquoi du comment, voilà.
Ok.
Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, si j'ai oublié des choses que tu veux que les auditeurs sachent?
Ouais, alors je m'appelle Marion, j'ai 29 ans, depuis une semaine j'ai fêté mon anniversaire en confiné. J'habite à Paris, je suis sur le point d'emménager à Bordeaux. Et donc je suis une ancienne du marketing, reconvertie en naturopathe passionnée, comme tu l'as dit. Et puis en podcasteuse à mes heures perdues pour continuer justement à faire des rencontres, à apprendre des choses sur le bien-être et à faire de nouvelles découvertes. Voilà, autrement, dans ma vie privée, je suis assez fan de bons restos, de voyages et voilà.
Donc toi, tu as suivi une formation assez classique en marketing.
Ouais.
Tu as suivi une formation au sein d'une école de commerce, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Après mon bac, j'ai voulu intégrer une école de commerce. J'avais l'idée de faire du marketing depuis un petit moment. J'avais fait mes stages. Tu sais, on a des stages en troisième, quand on est encore bien jeune, pour savoir ce qu'on va faire de notre vie. Et moi, j'étais passionnée par le marketing côté image, tout ce qui était lié à l'image de marque, au discours de marque. Et donc le marketing me plaisait, j'ai hésité un long moment à partir plutôt du côté créa, donc plutôt graphiste, direction artistique, etc. Et puis finalement je me suis rangée vers la voie peut-être un peu plus safe du commerce pour engager le marketing côté plutôt marketing stratégie. Donc j'ai fait une école post-bac pendant 5 ans et pendant mon cursus j'ai eu la chance de pouvoir partir vivre une année en Australie. Et de faire plusieurs stages et notamment une alternance à la fin de mon école.
Au cours de ces stages et de cette alternance, tu as travaillé dans de nombreux palaces parisiens?
Alors, j'ai rejoint plus tard les palaces.
Après ta formation, alors?
Ouais.
D'accord.
Ouais, c'est ça. J'ai fait mon alternance au sein du Swatch Group, donc dans l'horlogerie. J'ai travaillé pour une marque qui s'appelle Rado, qui est une marque d'horlogerie suisse avec des matériaux très, très précis et très technologiques, comme la céramique haute technologie, qui a été reprise par plein d'autres marques ensuite d'horlogerie. Et après ça, j'ai travaillé un peu plus d'un an pour une marque de mobilier design. Et ensuite, j'ai atterri dans les palaces parisiens.
À quel moment est-ce que tu as réalisé que tu n'étais pas du tout épanouie en fait dans cette vie professionnelle ? Parce que j'imagine que le monde des palaces parisiens, donc là où tu travaillais avant de te reconvertir, c'est quand même un monde qui attire.
Ouais, bien sûr, mais c'est un monde qui me plaît toujours beaucoup. Je pense que je ne me suis pas rendu compte que je n'étais pas épanouie, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas en phase avec ce que je voulais faire de ma vie, de chaque journée, de mon quotidien, de mon corps aussi. Enfin voilà, c'est le milieu hôtelier, et en tout cas l'hôtellerie avec de telles exigences comme les palaces dans lesquels j'ai pu travailler, c'est un milieu justement qui est très exigeant, qui va à 10 000 à l'heure. Et qui te laisse assez peu de repos, puisque finalement, tu as un bureau qui ne ferme pas le week-end, qui ne ferme pas vraiment la nuit. Donc voilà, ça demande une disponibilité non-stop. Moi, j'étais en charge du marketing, et en particulier du marketing digital. Donc tu rajoutes à ça les réseaux sociaux, qui sont là encore un non-stop. Et puis le fait que la clientèle et les gens avec qui tu échanges sont aux quatre coins du monde. Donc en fait, il y a toujours un moment où il y a quelqu'un de réveillé qui est prêt à t'envoyer un tweet ou quelque chose. Donc voilà, c'est plus ça qui m'a un peu fait sentir oppressée, un peu comme dans un rouleau compresseur. J'avais besoin de pouvoir redevenir maître de mon temps, de pouvoir faire des choses aussi qui me paraissaient avoir plus de sens. Et puis après, c'est aussi un milieu dans lequel tu ne prends pas beaucoup de temps pour toi. Tu ne choisis pas forcément ce que tu vas manger à midi parce que tu es à la cantine et il faut que tu restes joignable. Tu ne choisis pas comment tu t'habilles parce que tu es en tailleur, en escarpin. Tu dois te maquiller pour aller travailler. Tu dois te faire un chignon. Et je pense que c'est toutes ces choses-là qui, mises bout à bout, ont fini par me faire un peu décrocher. Et c'est vrai qu'en parallèle, pendant que je travaillais dans l'hôtellerie, j'ai découvert la naturopathie parce que j'avais plein de petits troubles, des petits soucis du quotidien, pas très graves, mais qui, maintenant que j'ai les deux pieds dedans, sont des signes annonciateurs de choses qui peuvent devenir un peu plus embêtantes.
Ton corps t'a envoyé des signaux ?
Ouais, c'est ça. C'était des petites choses liées au stress, des petits boutons, des petits troubles du transit, des gros coups de fatigue, le système nerveux vraiment à fleur de peau où je pouvais m'énerver très facilement. Et j'ai vu une naturopathe qui m'a vraiment accompagnée pendant ces quelques années d'hôtellerie et qui, je pense, m'a aidée à rester à flot. Et puis au moment où vraiment c'est devenu too much pour moi et je me suis dit là, il faut que je prenne la porte de la sortie parce que ça ne me va plus, je ne me reconnais plus et je ne suis plus en phase avec moi-même. La naturopathie vraiment est devenue évidente et je me suis dit, il y a tellement de choses à savoir qu'il faut forcément que je prenne le temps, que je m'accorde cette année et demie de formation pour en savoir plus. Et je me disais même, si jamais ça ne devient pas mon métier à temps plein, parce que ça me paraissait être un énorme grand écart, au moins je saurais comment mon corps fonctionne et comment je peux l'accompagner.
Donc pour aller vraiment plus loin, tu as décidé de te former et d'apprendre toutes les facettes en fait de ce métier de naturopathe. Est-ce que tu peux dans un premier temps, s'il te plaît, nous définir la naturopathie ou en tout cas nous expliquer en quoi ça consiste ?
Alors la naturopathie, c'est considéré comme la médecine traditionnelle occidentale. On parle souvent de la médecine traditionnelle chinoise ou de la médecine traditionnelle indienne, donc l'Ayurveda. On considère que la naturopathie, c'est la même chose, mais pour l'Occident. En fait, c'est un principe de santé qui va considérer que le corps peut s'auto-guérir, que le corps a toutes les ressources pour être en pleine santé. Et qui prend aussi en compte le corps dans son entièreté. Donc on n'a pas juste le corps physique, mais on va aussi s'intéresser au mental, aux émotions, à l'énergie. Et la naturopathie va venir aider chacun à retrouver cet équilibre entre justement l'énergie, l'émotion, le mental, le corps physique, pour permettre au corps de continuer à s'auto-guérir. Donc c'est vraiment une pratique de santé qui est quotidienne, qui est sur le long terme. On appelle ça un travail de terrain. Et qui va permettre de venir rééquilibrer le corps pour qu'il puisse par lui-même fonctionner au mieux.
Et donc, comment se déroule une première séance de naturopathie ? Qu'est-ce qu'on va chercher à comprendre ? Qu'est-ce qu'il va falloir dire aux naturopathes ?
Plein de trucs. Plein de trucs et ça peut être un peu impressionnant au début. La première séance est plus longue, ça dure en général 1 heure et demie, parce qu'elle permet un petit peu de tout mettre à plat, de donner au naturopathe en tout cas un tableau général sur le corps, sur comment il fonctionne. Il faut savoir qu'on a tous des corps qui fonctionnent un petit peu différemment, des habitudes de vie qui sont différentes. Et donc, par une première partie de questions assez poussées, parfois un peu intimes, mais face auxquelles il ne faut pas être intimidé parce que le naturopathe reste bien évidemment dans la confidence, on va réussir à comprendre le fonctionnement du corps, le fonctionnement de la personne, les habitudes de vie, et donc identifier quelle peut être la source de la problématique pour laquelle on consulte, et d'identifier aussi quelles pourraient être les dérives si jamais la problématique n'est pas prise. Tout de suite, comme je te disais, moi, avec le stress et la vie à 200 à l'heure, je commençais à avoir des petits signaux. Bon, bah, si je n'avais pas pris ça en compte, qu'est-ce que ça aurait pu donner après? Puisqu'en fonction de la constitution de chacun, des habitudes de chacun, on peut dériver vers certains types de pathologies ou vers d'autres.
D'accord.
Et ensuite, il y a une deuxième partie à cette première consultation qui va être plutôt des observations. Donc là, tous les naturopathes ne travaillent pas de la même manière, mais on va pouvoir observer la forme du visage, les mains, l'état des ongles et des cheveux. On va pouvoir faire de l'iridologie, donc regarder l'iris de l'œil. Certains font de la pulsologie, donc ils prennent le pouls chinois au niveau des poignets. Voilà, c'est tout un tas d'indicateurs qui vont permettre aux naturopathes de comprendre et de chercher la cause, parce qu'en naturopathie, on ne cherche pas à traiter un symptôme. C'est pas tu as une irritation, on va te mettre telle huile essentielle et ce sera réglé. Certes, on va te proposer ça, mais on va chercher à creuser pour comprendre pourquoi l'irritation est là et trouver la cause du problème. Et c'est là toute la différence, et c'est pour ça que la naturopathie fonctionne aussi bien main dans la main avec l'allopathie. C'est que l'allopathie va être plutôt une médecine d'urgence et la naturopathie va être une médecine de terrain pour rééquilibrer les choses sur le long terme.
Oui, c'est vraiment un traitement de fond.
Ouais.
Et en tant que patient, il faut vraiment être volontaire dans cette démarche et appliquer tous les conseils en fait, donnés par le naturopathe pour pouvoir aussi observer des changements.
Oui, alors on sait très bien en tant que naturopathe que quand on donne plein de conseils, il n'y en a qu'une partie qui va être réalisée et c'est bien normal, on ne peut pas dans notre quotidien toujours tout faire parfaitement. Mais en effet, on essaye en tout cas quand on donne des conseils de les adapter au maximum à la personne pour que, par exemple, si on doit prendre des compléments alimentaires, on va les conseiller au moment où la personne a le plus la tête à les prendre. Par exemple, moi, le soir, j'oublie tout le temps. Donc, je sais qu'il faut que ce soit des compléments alimentaires plutôt à prendre le matin que le soir. On va essayer d'intégrer des petites routines aussi dans la vie des clients qui viennent nous voir pour que ce ne soit pas une contrainte au quotidien, mais que ça devienne une habitude de vie. Après, comme tout, ça reste un apprentissage et on ne devient pas du jour au lendemain excellent et complètement un style de vie naturopathique. Et puis, c'est peut-être pas le but recherché non plus. Il faut garder aussi une part de fun, une part de légèreté, pas être toujours en train de tout calculer, de tout compter.
De tout analyser.
Ouais, c'est ça. Il faut garder, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de pathologie trop grave, il faut savoir se garder peut-être 80% de sérieux et 20%... où on profite un peu plus parce que le stress et le mental qui tournent ont presque autant d'effets négatifs qu'une alimentation déséquilibrée, par exemple. Donc, encore une fois, c'est un équilibre sur tous les plans.
Et toi, lorsque tu as découvert la naturopathie, quel a été ton sentiment premier? Comment tu as accueilli, en fait, la naturopathie dans ta vie?
Alors, déjà, c'est une collègue avec qui je travaillais qui m'a dit « Mais t'as tout le temps mal au ventre, va voir ma belle-sœur naturopathe, je t'assure, ça fait des miracles. » Et je ne savais pas trop ce que c'était, j'avais déjà vu des articles de blogueuses qui avaient été voir des naturopathes. Je me disais, bon, il y a le mot nature, ça ne doit pas être quelque chose de bien dangereux, allons voir. Donc je pense que la première fois, c'était la totale découverte. J'avais aucune idée de ce qu'il allait se passer, de ce que c'était, etc. Mais je faisais confiance. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre ce qu'est la naturopathie et à mettre un petit peu le doigt dans l'engrenage, j'ai l'impression que c'est une nouvelle porte qui s'est ouverte. Ça m'a fait réaliser, en fait, que notre corps n'est pas un dû et qu'il faut un minimum en prendre soin. Ça m'a fait comprendre aussi à quel point tout était lié dans le corps. Et j'hallucine encore de jour en jour de voir les effets que le stress peuvent avoir, l'effet d'une mauvaise respiration, enfin toutes ces choses-là, j'ai vraiment compris que tout était lié et qu'on a fait en fait un vrai pouvoir sur notre corps. Et je pense même que c'est la naturopathie qui m'a ouverte à l'écologie, parce que tout est un petit peu lié. Et que quand j'en parlais avec ma naturopathe, elle m'orientait toujours vers manger plutôt bio, parce qu'il y a moins de pesticides, moins de perturbateurs endocriniens. On parlait aussi de choses très globales, de style de vie. Et je pense que ça m'a vraiment ouvert toute une nouvelle porte que j'avais pas du tout, qui me semblait pas me toucher auparavant. Même dans l'hôtellerie, il y avait, l'écologie n'avait pas une place énorme, en tout cas à l'époque où j'y étais. Et du coup, j'avais pas tellement de prise de conscience à ce niveau-là avant de m'intéresser à la naturopathie et de voir une naturopathe.
Est-ce que dans ta famille, tu avais cet héritage familial des médecines alternatives, de la naturopathie, de l'écologie plus largement ou pas du tout ?
Alors la médecine alternative, pas du tout. Et c'est plus moi aujourd'hui qui essaye de les amener tranquillement vers des petits coups de boost naturels pour éviter de dégainer l'armoire à pharmacie à chaque fois. En revanche, mes parents ont toujours été des gens très proches de la nature, je trouve, et je me rends de plus en plus compte en vieillissant. Mon père est un passionné d'arbres, d'animaux. C'était toujours lui qui me montrait tel arbre, ça s'appelle comme ça. Regarde, il y a tel oiseau, telle plante. Donc j'ai quand même été assez proche de la nature. Je partais régulièrement le week-end à la campagne. Ma mère a beaucoup monté à cheval quand elle était jeune. Donc très vite, j'ai été posée sur un poney. Et ça aussi, finalement, c'est un lien à la nature et aux animaux qui est assez exceptionnel. Donc, et puis côté alimentation, il y avait quand même un certain équilibre. Mon père allait au marché tous les dimanches. Il y avait quand même un rapport plus à la terre, à la nature et à l'alimentation qu'au côté médecine. Et aujourd'hui, mes parents me font rêver parce qu'ils ont chacun sur leur petite terrasse des tomates, des aromates, des trucs qui poussent. Et je t'avoue que dans mon 30 mètres carrés parisien, je rêve de faire pousser un brin de basilic, quoi.
Ça va venir bientôt avec ton déménagement à Bordeaux. Et alors, lorsque tu envisages de te reconvertir, donc tu le disais, c'est parce que tu as été suivie par une naturopathe, que ça t'a intéressé et que tu voulais vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Comment tu te sens au moment de te reconvertir ? Est-ce que tout de suite tu l'envisages comme une reconversion professionnelle ? Est-ce que tout de suite tu te dis je vais suivre une formation en naturopathie ? As-tu ressenti peut-être de l'appréhension, un petit peu de peur, le sentiment aussi de t'être trompée et d'avoir suivi des études qui finalement n'étaient pas faites pour toi ?
Alors zéro regret pour le coup, je suis persuadée de ne pas m'être trompée. Par contre... La transition n'a pas forcément été évidente, dans le sens où moi, j'avais très peur de me retrouver le bec dans l'eau ou de lâcher une liane sans avoir attrapé la suivante. Donc, j'ai vraiment voulu procéder par étapes. J'avais en tête la naturopathie depuis un moment, même en étant encore employée en hôtellerie. J'ai voulu m'inscrire à une session de formation, mais en fait, il y a une telle demande que j'ai finalement pas eu de place et j'ai dû attendre la session de formation suivante. Donc j'avais cette idée de la formation naturo, je savais qu'il allait falloir que je quitte l'hôtellerie pour mon bien-être physique et mental. Finalement, le départ s'est fait de manière un peu plus précipitée et un peu plus houleuse, mais bon, les histoires d'amour finissent pas toujours hyper bien, donc j'ai regardé ça avec le maximum de philosophie que je pouvais. Et puis j'ai eu 6 mois, un petit peu de flottement avant que ma formation commence. En étant partie de l'hôtellerie, j'ai eu la chance de pouvoir avoir les aides à la création d'entreprise et je me suis dit que c'était le moment pour entamer autre chose. Donc j'ai commencé par faire ce que je savais déjà faire, c'est-à-dire accompagner des clients en marketing digital. Donc j'ai eu pendant les 6 mois quelques marques que j'ai aidées à se développer sur les réseaux sociaux, développer pour faire de la vente en ligne, etc. Et puis je sentais que même ça, j'en avais plus très envie. En fait, ça m'animait un peu moins. J'aimais moins ce monde-là. C'était plus assez. Ça manquait de sens encore. Et donc, j'ai eu l'idée de lancer le podcast. Et je pense qu'à partir du moment où vraiment l'idée est devenue claire dans ma tête, que j'allais lancer un podcast, que ce serait sur le bien-être, que ce serait comme ci et comme ça, parce que j'ai essayé de faire un espèce de semblant de business plan pour me rassurer toujours. Là, j'ai eu le sentiment d'être sur les bons rails, d'être au bon endroit, au bon moment, d'avoir pris la bonne décision. Et quand la formation Naturo a commencé, c'est comme si voilà, j'étais là encore sur les bons rails, sur le bon chemin, parce que j'avais pas forcément anticipé que la Naturo, donc la formation, allait autant nourrir le podcast et que le podcast me nourrirait autant en tant que futur naturopathe. Donc finalement, les choses se sont super bien imbriquées. La formation, de jour en jour, je la trouve de plus en plus passionnante et je me dis toujours, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? C'est quand même dingue qu'on ne sache pas ce qui se passe dans notre corps à chaque moment de notre vie.
Bien sûr.
Mais voilà, la phase qui a été la plus compliquée, ça a été de quitter mon poste, de me dire que allez hop, je fermais cette porte pour de bon. Ça n'a pas été le plus simple, en effet.
J'imagine que c'est pas facile après quelques années dans ce milieu-là et surtout quand tu ne sais pas à quoi t'attendre de l'autre côté.
Ouais, c'est ça. Et puis tu sais que bon, la naturopathie, c'est quand même pas un métier dont on vit tout de suite. C'est pas un métier dont tout le monde arrive à vivre, même après quelques années. Donc c'était aussi en dehors du fait de changer de voie, ça change un petit peu ta position sociale aussi, ton masque social, si je puis dire. Ça remet en question plein de choses dans ta manière de vivre et c'est aussi là que je me suis rendu compte que bah, j'avais pas besoin de dépenser tant en fringues tous les mois, que j'avais peut-être pas besoin d'autant d'argent pour faire ci et ça. Donc ouais, ça a été une remise en question vraiment plus large, pas uniquement professionnelle, mais ça a eu forcément un impact sur ma vie personnelle, sur mon image de moi, sur ma place dans la société, sur plein de choses, quoi. Et ça demande du temps aussi pour l'accepter, pour bien le vivre et puis pour se sentir pleinement à sa place.
Mais c'est intéressant en même temps parce qu'en ayant fait tout ce travail sur toi-même, je pense qu'aujourd'hui, tu sais que tu es à ta place.
Ouais, complètement. Je pense que je me suis jamais sentie autant à ma place, autant au bon endroit. Entre ces deux activités, même si parfois j'ai l'impression d'avoir les fesses entre deux chaises parce que à la fois je mène mon business en tant que podcasteuse et à la fois j'essaye d'être le plus centrée possible pour accompagner des personnes en naturopathie. Mais je crois que ça me va, cet équilibre entre deux choses.
Et puis tu le disais en début d'épisode, et c'est vrai, je te rejoins là-dessus, on est jeune quand on nous demande de faire des stages, de choisir notre orientation, ouais, on est très jeune. On est finalement très fragile aussi, parce que c'est une période difficile, l'adolescence.
Où on nous demande tellement, tellement de choix, tellement de décisions, tellement de...
On nous demande énormément de choses, et en parallèle, on apprend aussi à se responsabiliser, à s'éloigner de ses parents, on apprend à voler de nos propres ailes, on peut commencer un petit job étudiant, on peut commencer à partir en vacances de manière autonome et indépendante. Et c'est une période difficile, et je pense que... Aujourd'hui, si on a autant de personnes dans notre entourage qui sont confrontées à des reconversions professionnelles, c'est sûrement parce que le système éducatif tel qu'il est ne permet pas de se poser toutes les questions, ou en tout cas les bonnes questions, au bon moment.
Et puis on n'a pas, je trouve, au moment où on nous demande de prendre des décisions, on n'a pas un panel assez large des métiers qui s'offrent à nous. Moi, quand on m'a demandé de choisir mon métier, le métier que j'ai fait finalement de marketing digital, ça n'existait pas. Facebook, on n'en entendait pas parler. Donc, ouais, je trouve qu'il faudrait peut-être élargir un peu les perspectives pour les plus jeunes. Et puis, il faudrait surtout leur dire, t'inquiète pas, c'est pas un choix pour la vie, quoi. Parce qu'il paraît que notre génération fera 16 métiers différents au cours de notre vie ou quelque chose comme ça. C'est des estimations, bien sûr, hein. Mais moi, je te garantirai absolument pas que dans 10 ans, j'en serai encore là. Et il faut qu'on réussisse aussi à s'enlever cette culpabilité de se dire bah, « mince, j'ai choisi ça, j'ai payé des études pour faire ça, j'y ai mis de l'énergie, je ne peux pas changer ». Mais en fait, si, en fait, voilà, rien n'est figé et je pense qu'en effet, ce serait important de le dire aux plus jeunes quand on choisit l'orientation.
Bien sûr, j'espère que c'est le discours maintenant qui domine et qu'on a un petit peu évolué sur le sujet, parce que moi je me souviens que c'était une telle angoisse et une telle pression.
Ah ouais, et puis du coup on voulait faire comme les copains, copines, pour pas être trop différents.
Voilà, tu veux faire comme les copains, ou alors c'est aussi conditionné par, mine de rien, ta vie sociale, ta vie familiale.
Ouais.
Juste avant qu'on parle vraiment de ton podcast qui est passionnant, comment tu as choisi ton centre où suivre ta formation de naturopathie? Est-ce que tu as demandé conseil à ta naturopathe? Comment tu t'y es prise? Est-ce qu'il y a plusieurs centres qui existent aujourd'hui en France?
Ouais, il y en a plusieurs et il y en a de plus en plus. Moi, j'ai pas voulu demander l'avis. Alors, je sais pas si c'est que je suis têtue ou quoi que ce soit, mais j'ai voulu l'avis de personne. J'ai voulu me faire ma propre opinion, en fait, parce que je trouve que c'est important que chacun se fasse sa propre opinion. Et la naturopathie peut être tellement différente d'une personne à une autre, pratiquée de manière tellement différente, que je pense quand on choisit sa formation, c'est hyper important d'avoir un bon feeling avec l'établissement et que ce soit un établissement qui nous permette de pratiquer la naturopathie avec nos valeurs et avec notre vision des choses. Donc, j'ai demandé ni à ma naturopathe, même si finalement j'ai atterri dans la même école qu'elle, mais je ne le savais pas. J'avais une autre connaissance qui cherchait aussi à faire de la naturopathie en même temps, qui s'était renseignée. J'ai pas voulu son avis. Et j'ai cherché comme une grande sur Internet. J'ai remarqué qu'il y avait une association française donc, qui s'appelle aujourd'hui la FENA, F-E-N-A. Qui est en fait la fédération de naturopathie et qui regroupe toutes les écoles entre guillemets sérieuses qui sont accessibles en France. Il faut savoir que la naturopathie, on en trouve dans plein de pays différents. Il y en a beaucoup de naturopathes en Australie. En Allemagne, c'est une formation à part entière, quasiment comme médecine chez nous en France. Donc voilà, en fonction des pays...
En Suisse aussi, non ?
En Suisse, je connais moins, mais j'imagine ouais, qu'ils ont aussi une formation un peu costaud. Donc voilà, en fonction des pays, c'est assez différent. En tout cas, en France, les cursus se ressemblent plus ou moins. On pouvait choisir de faire ça soit sur 3 ans en faisant que le week-end, soit en condensé 2 jours ou 3 jours par semaine. Moi, je ne pouvais pas me projeter sur ce que j'allais faire dans 3 ans. Il fallait que ce soit assez rapide, même si quitte à ce que ce soit un peu intense. Et du coup, en regardant les écoles qui faisaient partie de cette FENA, qui était quand même et qui est toujours une assurance de qualité quand même, j'ai été tout simplement aux journées portes ouvertes, aux réunions d'information. Et puis, j'ai vu le feeling que j'avais et celle que j'ai choisie, donc qui est le Sénato, m'a plu parce qu'elle est, elle ouvre à pas mal de pratiques différentes. Elle est vraiment très holistique dans sa manière d'enseigner et on touche à énormément de choses. Alors, bien sûr, on ne sera pas professionnel dans tout. Mais au moins, ça nous ouvre la porte vers tout un volet énergétique qu'on trouve un petit peu moins dans d'autres écoles, vers de la pulsologie, vers de l'iridologie. Voilà. Pour moi, il y avait un panel assez large qui allait me permettre de découvrir beaucoup de choses et ensuite à chacun de creuser dans les domaines qui les intéressent particulièrement.
Parce qu'en tant que naturopathe, ensuite, tu peux te spécialiser, par exemple, en symptothermie, si tu es intéressé par la fertilité, ouais. Tu peux te spécialiser dans différents domaines ?
Oui, complètement. Déjà, tu peux te former à différentes pratiques. Aujourd'hui, il y a énormément D'accord. de naturopathes qui ne font pas que de la naturopathie. Un naturopathe peut proposer du massage, peut proposer de la relaxation, peut être également réflexologue, magnétiseur. Enfin, voilà, il y a plein de choses différentes. Et après, tu peux te spécialiser aussi dans un certain type d'accompagnement. Par exemple, pour ce qui me concerne, j'aimerais beaucoup développer tout ce qui est lié au toucher, donc principalement le massage, en plus de consultations plus classiques. Et je me spécialise sur tout ce qui touche au cycle féminin, donc de la puberté à la ménopause, en passant par les 4 phases qu'on vit chacune chaque mois et qui sont plus ou moins réjouissantes. Donc voilà, moi, c'est mon dada, c'est ce sur quoi j'ai décidé de me spécialiser, ce qui veut dire que je pourrais quand même accompagner une femme qui souffre de stress ou d'autres problématiques, d'hommes également. Mais voilà, après, chacun a un peu son dada et sa spécialisation. Et je pense que plus on acquiert en expérience et plus on devient compétent dans cette spécialisation et donc plus notre clientèle aussi se resserre autour.
Très intéressant, j'ai hâte de suivre ton parcours. Et d'en apprendre davantage. J'espère que tu pourras partager peut-être au travers de ton podcast tout ce que tu apprends et c'est très important et notamment pour les femmes et les jeunes filles et les adolescentes qui ont bien besoin ouais. d'être accompagnées et beaucoup plus que ce qu'on l'a été parce qu'on ouais. n'a pas été suffisamment accompagnées finalement.
Et puis on ne se rend pas compte à quel point il y a un nombre incalculable de femmes qui souffrent tous les mois. Alors que bon, c'est pas le sujet, mais les règles ne devraient pas être une souffrance perpétuelle. Et si on souffre, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est important de pouvoir se soigner, de pouvoir prendre soin de soi, comprendre comment les choses fonctionnent aussi. Parce que combien d'entre nous ne savent même pas comment ça se passe dans le corps chaque mois. Donc voilà, pour moi, c'était super important. Et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule à avoir besoin de clarté sur ces sujets-là. Et c'est, voilà, je pense que c'est essentiel, en tout cas pour les femmes, d'être accompagnées là-dessus.
Merci beaucoup de rappeler que lorsqu'on est une femme, on n'est pas censé souffrir en période de règles. Je rabâche les oreilles de mes copines avec ça, en leur disant « si tu as mal à chaque fois, ce n'est pas normal, ouais. Je t'en prie, va consulter ». Mais en fait, on a tellement été habitués depuis qu'on est réglée, donc depuis qu'on est adolescente, à avoir mal en fait, ou en tout cas à s'accommoder de cette douleur.
Ouais, ou à se mettre des cachetons dans le bec pendant toute la semaine douloureuse.
Qui n'a pas été voir un gynécologue il y a une quinzaine d'années qui lui a dit « mais prends la pilule, comme ça tu n'auras plus mal ».
Ouais, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore.
Ah, ça existe toujours.
Ça existe toujours, ouais, malheureusement.
C'est inquiétant, parce que moi c'était il y a quand même quelques années.
Non, ça existe toujours et dans ce moment-là, je prends mon plus grand sourire et je sors.
Donc voilà, donc merci beaucoup de le rappeler, tu fais bien et je suis persuadée que tu vas accompagner et pouvoir aider un grand nombre de femmes et d'hommes évidemment, mais sur ces problématiques-là, des femmes.
J'espère.
Et donc si on revient à Healthy Living, qui est le podcast que tu as lancé en novembre 2018.
C'est ça. Encore plus calée sur les dates que moi.
Ouais, j'ai remonté.
Je me disais, si elle me demande la date, je me rappelle plus.
J'ai remonté l'historique et en ouais, plus, c'était rigolo parce que c'est pile un an après le lancement de Basilic. Donc, je me suis dit que c'était un signe.
Je me rappelle que j'écoutais Basilic. Je me rappelle au moment de lancer, je me disais, ah, c'est pas mal, j'aime bien.
Donc, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur les thématiques que tu abordes? Donc, toi, vraiment, ton dada, c'est de décrypter les tendances bien-être. C'est assez large. Tes invités sont vraiment très variés, les thématiques abordées également. Donc, est-ce que tu pourrais juste resituer un petit peu pour les auditeurs?
Oui. Quand j'ai lancé Healthy Living, je trouvais qu'il y avait énormément de nouvelles choses dont on entendait parler sur le secteur du bien-être. Donc, comme tu le dis, c'est très large. Ça peut être de l'alimentation, ça peut être du sport. Combien de nouveaux styles de yoga on a entendu parler ces dernières années? Ça pouvait être du développement personnel, voilà, plein de choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle petite chose, il y avait un nouveau terme, toujours plus marketé, toujours plus tendance, etc., qui sortait dans les magazines. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un énorme décalage. Il y a une tonne de personnes qui ne savent pas ce que je leur raconte si je leur dis « j'ai bu un golden latte après mon Kundalini yoga », par exemple. Et du coup, pour moi, c'était important de reprendre ces termes et d'expliquer ce que c'était. Et d'expliquer voilà, c'est toutes ces tendances qui émergeaient. J'ai voulu garder un angle assez large parce que pour moi, l'idée, c'était que chacun puisse venir piocher un petit peu ce qui l'intéressait. Donc, j'ai des gens qui vont écouter que ce qui touche à l'alimentation et puis qui n'en ont rien à faire du développement perso, par exemple. Mais voilà, pour moi, c'était important de donner des clés sur plein de sujets. Ça me permettait moi aussi de pouvoir rencontrer plein de personnes variées, de pouvoir jamais m'ennuyer sur les thèmes abordés. Et puis les épisodes se déroulent donc environ 30-40 minutes autour du thème plus qu'autour de l'invité parce que je voulais voilà, vraiment que ce soit l'idée de décrypter ce thème. Alors parfois c'est un spécialiste, parfois c'est juste quelqu'un qui a une affinité avec le thème. Mais voilà, moi c'est vraiment centré autour d'un sujet à chaque fois. Et je voulais avant tout que le podcast ait un côté très déculpabilisant aussi. J'ai trouvé qu'au milieu de toutes ces nouvelles tendances qui apparaissaient, il y avait une vraie culpabilité sous-jacente avec toutes les fit girls qu'on voyait sur Insta et toutes ces injonctions à faire son sport chaque semaine et à manger des salades vertes et des machins. Je pense qu'on est tellement d'individus différents qu'il n'y a pas une réponse universelle pour tous. Et donc, c'était important pour moi de montrer... voilà, différentes facettes, différentes options et encore une fois que chacun se reconnaisse ou non dans le sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous mes épisodes se terminent avec la zone d'ombre de mon invité pour bien rappeler qu'aucun de nous n'est parfait et que c'est loin d'être le but parce que si on était tous parfaits, ce serait hyper ennuyant.
C'est sûr et puis on n'aurait plus rien à dire.
Ouais, complètement. On serait tous pareils, tous parfaits, ce serait chiant.
Ce serait pas drôle. Moi, parmi les thématiques que tu as abordées et que j'ai en tête aujourd'hui, je repense par exemple au karma. De quoi est-ce que tu avais parlé? Des tiny house, du gluten. Enfin, voilà, c'est vraiment très large. Donc, pour les auditeurs de Basilic, je pense que Marion et moi, on est sur des sensibilités assez, assez proches. Donc, les épisodes devraient vous plaire, j'en suis convaincue.
Et puis, je pense que toutes les deux, on a envie de mettre en avant des initiatives positives et des gens qui font le bien à leur échelle, que ce soit des petits mieux ou des énormes révolutions, mais des gens qui, en tout cas, vont dans le bon sens et font les choses du mieux possible.
Tout à fait. Est-ce que cette période de confinement, Marion, t'a permis de travailler sur d'autres projets, de te projeter vers le monde de demain ?
Je pense qu'il y a eu pas mal de phases pendant ce confinement. Moi, je suis quelqu'un d'un peu restless, comme on dit en anglais. J'ai beaucoup de mal à savoir me poser et rien faire. J'ai énormément de mal à ça. Donc, les 2-3 premières semaines, ça a été l'hyperactivité confinée. J'ai pas arrêté, j'ai fait plein de trucs. Je me suis presque fait une to-do list de trucs à faire parce que c'est génial. Il y a eu plein de livres qui ont été mis en ligne gratuitement. Il y a eu les spectacles de l'opéra dispo sur le site internet de l'opéra. Et puis, en même temps, j'ai toujours ma formation qui continue à distance et puis toujours le podcast. Et donc, bon, j'ai passé les 3 premières semaines à vouloir faire de la productivité intensive en temps de confinement. Et puis, j'ai eu le petit creux de la vague après en me disant « Mais attends, en fait, t'es complètement en train de passer à côté du truc. Si tu prends pas du temps pour toi maintenant, tu le feras jamais. » Et donc, j'ai tranquillement réussi à glisser vers un rythme un peu plus intuitif, un peu plus calme. Et même si je m'ennuie toujours pas parce que j'ai le podcast, j'ai d'autres projets, j'ai peut-être un déménagement un jour, qui sait, si on arrive à être déconfiné. Donc voilà, je m'ennuie pas, mais j'arrive un peu plus à faire les choses calmement et à m'écouter. Et ça, c'est hyper important, je pense. Pour moi, c'est de réussir à être un peu plus dans la sensation, à m'écouter, et un peu moins dans mon mental. Donc j'espère que ce confinement m'aura appris ça, même si je ne te cache pas qu'à mon avis, quand on va être un peu plus de retour dans la vraie vie, je risque de repartir à 200 à l'heure. Mais bon, voilà, je suis en perpétuelle recherche de cet équilibre. Et pour le monde d'après, écoute, j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, mais j'ai des gros moments de désillusion aussi. Je ne sais pas tellement ce que ça va donner, je ne sais pas tellement si les choses vont évoluer. J'espère que de plus en plus d'individus, à leur échelle individuelle, vont changer les choses, vont se tourner justement un peu plus vers l'écologie, faire un petit peu plus attention à la planète. J'ai l'impression qu'énormément de gens se sont rendus compte que ça faisait du bien, en fait, de prendre du temps, de mettre les mains dans la terre, de faire des choses comme ça. Peut-être que ça va faire naître des vocations de nouveaux, je sais pas, nouveaux jardiniers, nouveaux cultivateurs de la terre, peut-être donner envie à des gens de partir un peu plus à la campagne, s'éloigner des villes. Parce que quand on voit ceux qui sont confinés à la campagne et qui arrivent à avoir leur potager, leurs propres œufs, etc. Et nous, on est obligés d'aller faire la queue chez Naturalia avec nos masques. On se dit peut-être qu'on n'a pas fait les choix les plus optimaux en temps de crise. Mais voilà, je ne sais pas si par contre à un niveau plus large, c'est-à-dire gouvernemental, à un niveau... au niveau de la nation, on va réussir à faire évoluer tout ça. Je ne sais pas si les choix stratégiques vont prendre le pas sur les choix économiques. Je t'avoue que je reste un peu dubitative.
Pareillement, je l'espère très fortement, mais j'ai, tout comme toi, des grands moments de désillusion.
Ouais, c'est ça. Au moins, l'humain a été mis un peu plus en avant ces dernières semaines par rapport à l'économie, mais... on voit le naturel revenir au galop, là, donc je sais pas.
On verra, mais il faut rester positif. Et puis toi, on en parlait avant d'enregistrer l'épisode, mais tu vas bientôt ouvrir ton cabinet dans la région bordelaise. Donc c'est un chouette projet aussi, en parallèle du podcast. Deux projets à mener de front qui devraient t'occuper tout ton temps.
Ouais, ça c'est sûr. Et j'espère que cette crise ouvrira aussi un peu les yeux sur l'importance de prendre soin de soi au quotidien et de soigner justement ce qu'on appelle le terrain en naturopathie. Parce qu'aujourd'hui, si le virus touche certaines personnes et pas d'autres, s'il est dramatique chez certains et très léger chez d'autres, c'est bien qu'à la base, il y a une situation différente, un corps différent, un terrain différent. Et j'espère que ça va donner envie aux gens de prendre soin d'eux régulièrement et de soigner leur immunité avec tout ce qui se passe. Croisons les doigts pour que la naturopathie ait de belles heures devant elle pour pouvoir aider un maximum de gens.
J'espère, mais pour le coup, autant j'ai de gros doutes sur les mesures qui seront prises à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. En revanche, je pense que l'humain, moi j'ai toujours vraiment une très grande confiance en l'humain et je suis persuadée qu'après 2 mois ou presque de confinement, on saura tous se tourner vers les médecines et ce qui nous fait du bien en fait tout simplement. Donc ça peut être une médecine alternative, ça peut être une activité, ça peut être la méditation, ça peut être la pratique d'un sport, ça peut être ne rien faire aussi. Et je suis persuadée qu'on va s'écouter davantage.
Ouais, je te rejoins sur ça.
Je suis convaincue.
Je pense que vraiment au niveau individuel, ça va évoluer.
Donc voilà, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Alors avant d'achever cet épisode, j'aime bien poser à mes invités quelques questions de fin, comme je les appelle, un petit peu plus légères et auxquelles tu peux répondre du tac au tac. Donc allons-y. La première, est-ce qu'il te reste un geste écolo à adopter ?
Ouais, j'ai beaucoup de mal à me passer de coton-tige. Tu sais, les coton-tiges classiques, il m'en reste encore dans ma salle de bain. J'ai beau avoir le petit auriculi là de la Mazzuna, j'ai encore beaucoup de mal à laisser tomber les vilains coton-tiges qui viennent étouffer les tortues dans la mer.
Je comprends, ça prend du temps. Ça prend du temps à se passer des coton-tiges, mais moi, mon astuce, c'est que pour mon fils, il n'aura pas le droit d'utiliser de coton-tige.
Ah, c'est une bonne idée. Comme ça, il n'aura même pas connu.
Il n'aura pas le problème, après, de devoir apprendre à s'en passer.
Ouais, surtout que ce n'est même pas le truc le plus efficace à utiliser.
Non, mais c'est vraiment l'habitude. Une habitude. Mmh. Est-ce que tu as un documentaire ou une lecture à recommander aux auditeurs ?
Ouais, alors une lecture hyper basique, mais que je lis et que je relis à chaque petit coup de mou, c'est les 4 accords Toltec. Que j'imagine on t'a cité 1 million de fois, mais je pense que vraiment c'est là aussi une belle porte ouverte vers autre chose, vers une autre manière de voir les épreuves qu'on rencontre dans la vie et de se comporter avec autrui. Et ça peut être pas mal pour les 2 semaines de confinement qui restent là, que chacun se plonge dedans. Et autrement, j'ai re-regardé le reportage Minimalism sur Netflix, que j'aime beaucoup, sur justement l'état d'esprit minimaliste et le fait qu'on peut vivre avec beaucoup moins et être encore plus heureux.
2 très bons conseils, une lecture et un documentaire, c'est parfait. C'est tout ce dont on a besoin. Et puis le minimalisme en ce moment, bah, c'est le moment. Deux semaines de confinement, et même si cet épisode est diffusé plus tard, mais voilà, les 2 semaines qui viennent, chers auditeurs, prenez le temps pour trier vos placards, remettre en perspective tout ce que vous possédez, essayez un peu de désencombrer vos maisons, et je vous garantis que vous vous sentirez beaucoup mieux.
Ouais, ça allège l'esprit.
Si tu pouvais changer quelque chose, en claquant des doigts, qu'est-ce que tu changerais, que ce soit pour toi, à ton échelle personnelle, ou plus largement ?
À mon échelle personnelle, je pense que j'aimerais en un claquement de doigts changer mon rapport au temps, arrêter de me sentir pressée tout le temps et un peu plus prendre le temps de vivre. Et à l'échelle mondiale, alors ça va paraître très très cucu, mais s'il pouvait y avoir un tout petit peu plus d'amour dans les rapports humains, un tout petit peu plus de bienveillance et d'empathie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, c'est en anglais mais en français, ça veut dire les gens que tu croises dans la rue, tu sais, t'as aucune idée des épreuves qu'ils sont en train de traverser. Alors, sois cool avec eux. Et c'est vrai, on a tendance à monter dans les tours facilement, à se frotter un peu les uns aux autres. Et un minimum de bienveillance et d'amour permettrait d'apaiser beaucoup, beaucoup de choses.
Ça, c'est hyper important. Je suis bien d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Marion. C'était très intéressant.
Merci à toi.
J'indiquerai tous les liens de toute façon dans la barre de description pour que les auditeurs puissent bien évidemment écouter Healthy Living. Est-ce que tu as un site pour ton activité de naturopathe ou pas encore ?
Non, pas pour l'instant. J'ai mon compte Instagram perso et puis je pense que j'utiliserai aussi la plateforme Healthy Living pour annoncer l'ouverture du cabinet.
Ok, eh bien super. Donc tout le monde peut te suivre à cet endroit-là, c'est parfait. Merci beaucoup Marion.
Merci à toi, très vite.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Vous pouvez également me laisser des notes et des commentaires sur la plateforme d'Apple Podcasts ou celle d'Ico Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast à de nouveaux auditeurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt !